VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 20 avril 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Tout d'abord les titres. Spectacle macabre à Khartoum, où les civils fuient entre les cadavres pour échapper au combat. Quelques 320 militaires soudanais fuyant les combats s'est réfugiés au Tchad. Au Burkina Faso, le décret de mobilisation permettant la réquisition des hommes d'au moins 18 ans a été signé. Au moins 4 morts dans une attaque contre une délégation officielle malienne, selon des sources citées par l'AFP. Au Yémen, 85 morts et des centaines de blessés dans une bousculade à Sanaa. Espace. Deuxième essai ce jeudi pour le vol inaugural de Starship, la plus grande fusée du monde. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Soudan, des milliers d'habitants de Khartoum ont fui mercredi sur des routes bordées de corps et de blindés calcinés pour échapper aux combats incessants entre les paramilitaires et l'armée régulière, combats qui ont tué plus de 270 civils en 5 jours. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
À pied ou en voiture, les civils tentent de passer sous les tirs croisés des forces de soutien rapide, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo et de l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. L'armée de l'air et l'artillerie des deux camps ont bombardé 9 hôpitaux de Khartoum. 39 des 59 hôpitaux des zones touchées par les combats ont été mis hors d'usage ou forcés de fermer, selon des médecins. Les combats qui ont éclaté samedi ravagent principalement Khartoum et le Darfour dans l'ouest, mais toutes les premières frictions ont débuté jeudi aux abords de la base aérienne de Méroé, dans le nord voisin de l'Égypte. Dans le chaos des combats, 177 soldats égyptiens présents pour des entraînements ont été capturés par les FSR. Depuis, l'Égypte, grande alliée du général Burhan, disait travailler à leur retour. Ils ont décollé mercredi soir à bord de 4 avions militaires égyptiens depuis l'aéroport de Dongola, à 400 km au nord de Khartoum, a annoncé l'armée soudanaise sans que le Caire confirme leur départ ou leur arrivée. Si ce point de tension qui faisait craindre une déflagration régionale semble résolu, les deux généraux rivaux restent sourds aux appels au cessez-le-feu. Les FSR et l'armée ont annoncé mercredi une trêve de 24 heures à partir de 16 heures temps universel, mais, comme la précédente pause annoncée la veille, elle n'a jamais commencé. Mercredi, l'armée a dit s'être battue avec les FSR autour d'une agence de la Banque centrale et affirmé que des sommes astronomiques ont été volées. Ce jeudi, les patrons de l'ONU, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'autres organisations régionales doivent se réunir pour réclamer un nouveau cessez-le-feu.
Merci Yacouba. Environ 320 soldats soudanais ont par ailleurs fui les combats qui font rage dans leur pays pour se réfugier au Tchad voisin, a déclaré hier le ministre tchadien de la Défense. Le point avec Michel Joseph.
Ils sont arrivés sur notre territoire, ont été désarmés et détenus dimanche, a déclaré le général Daoud Yahia Brahim lors d'une conférence de presse, précisant que les soldats craignaient d'être tués par les forces paramilitaires de soutien rapide qui combattent les troupes du chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. La situation au Soudan est préoccupante et déplorable. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires face à cette crise, a déclaré le ministre. Il a toutefois ajouté que cette guerre ne nous concerne pas, elle est entre les Soudanais et nous devons rester vigilants face à toutes les éventualités, refusant de donner plus de détails. Le Tchad avait fermé samedi ses postes frontières avec le Soudan, qui s'étendent sur plus de 1000 km dans le désert et sont souvent traversés par des groupes rebelles des deux pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a signé hier le décret sur la mobilisation générale et la mise en garde. Le décret avait été adopté le 13 avril dernier en Conseil des ministres. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À l'issue du Conseil des ministres hier, le gouvernement a décidé d'adopter un décret qui porte sur la mobilisation générale et la mise en garde. Face à la situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso, le salut de la nation repose sur un sursaut national de l'ensemble des filles et des fils en vue de trouver une solution a expliqué le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly. La mobilisation générale et la mise en garde visent à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire, indique le communiqué de la présidence du FASO à l'issue du Conseil des ministres. Il s'agit surtout à travers ce décret de donner un cadre juridique, légal, à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso, note le communiqué. Fin mars, le gouvernement avait décrété l'état d'urgence dans 8 régions sur les 13 que compte le pays. Une mesure prise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, avait affirmé le gouvernement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali voisin, un élu local, des responsables administratifs et des sources sécuritaires ont indiqué mercredi à l'AFP qu'au moins 4 personnes ont été tuées et au moins 2 portées disparues dans l'attaque d'une délégation officielle malienne à quelques 400 km au nord de Bamako, près de la frontière mauritanienne, une région en proie aux attaques djihadistes. Les victimes n'ont pas encore été officiellement identifiées par les autorités et des zones d'ombre subsistent sur la nature de la délégation qui venait prospecter des forages pour les populations locales à une 40aine de kilomètres de la ville de Nara, non loin de la forêt de Ouagadougou, connue pour abriter des djihadistes. Contactée par l'AFP, la présidence de la République au Mali n'a pas souhaité réagir pour le moment, selon la dépêche de l'agence. La Tunisie a fermement rejeté mercredi les inquiétudes exprimées notamment par la France et l'Union européenne après l'arrestation lundi du chef du parti islamo-conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, les qualifiant de vagues de commentaires inappropriés et inadmissibles. L'opposant le plus en vue à être arrêté en Tunisie depuis le coup de force du président Kais Saied en juillet 2021, M. Ghannouchi avait affirmé avant son arrestation que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahda y étaient éliminés. Ici à Washington, le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel, a qualifié d'escalade inquiétante les arrestations d'opposants et de critiques en Tunisie. Ailleurs dans le monde, un tiers des fonctionnaires du Canada ont débuté hier une grève pour réclamer des augmentations de salaire et plus de télétravail, déclenchant l'un des plus importants mouvements sociaux de l'histoire du pays. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'Alliance de la fonction publique du Canada réclame une augmentation de salaire de 13,5% sur 3 ans, soit 4,5% par an pour pallier l'inflation. Le gouvernement propose 9% sur 3 ans. Le syndicat demande aussi plus de flexibilité sur le télétravail. Les fonctionnaires canadiens, dont la plupart travaillent à distance depuis la pandémie, ne veulent pas se voir imposer 2 ou 3 jours au bureau. Après des mois de négociations sans succès, l'AFPC a déclenché un mouvement reconductible. La grève touche le service des demandes de passeport, d'immigration, des impôts, mais aussi une partie des inspecteurs des grains sortant des ports du Canada, grains exportateurs de blé et de colza. Il est important que les syndicats reviennent à la table des négociations, a déclaré hier le premier ministre Justin Trudeau. Il a rappelé son soutien au droit de grève, mais a averti que les Canadiens vont perdre patience si le processus s'éternise. Le dernier débrayage de cette ampleur dans le pays remonte à 1991.
Au moins 85 personnes ont été tuées et plus de 322 blessées ce jeudi au Yémen, dans l'une des bousculades les plus meurtrières de ces 10 dernières années lors d'une action caritative dans la capitale Sanaa, aux mains des rebelles. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans une école du quartier de la Vieille Ville pour recevoir des aides financières, selon les témoignages recueillis par un journaliste de l'AFP. Certains affirment avoir entendu des coups de feu qui ont, selon eux, provoqué le mouvement de foule. Les autorités de Sanaa n'ont pas mentionné les causes de l'accident ni le nombre de victimes, se contentant d'évoquer des dizaines de morts suite à une bousculade lors d'une distribution chaotique de sommes d'argent par certains commerçants. Décollage d'une géante, deuxième tentative,
SpaceX doit réessayer en réalité ce jeudi de lancer pour la première fois dans l'espace sa nouvelle fusée Starship, la plus grande du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars. La fenêtre de tir s'ouvrira à 8h28 local, soit 13h28 temps universel, jusqu'à 9h30. Le théâtre de ce spectacle très attendu est la base spatiale Starbase de SpaceX, située à l'extrême sud du Texas aux États-Unis.
La Minute Éco, John Lindon. La réussite d'un système de traçabilité dans la filière cacao en Côte d'Ivoire dépendra de l'étroite collaboration entre le Conseil du Café Cacao, les entreprises transnationales engagées dans l'exportation de la fève ainsi que des coopératives. C'est ce qu'a confié à l'agence Ecofin Cécile Régnier, co-auteur de l'étude « Transparence, traçabilité et déforestation dans la chaîne d'approvisionnement du cacao ivoirien ». Le 6 décembre dernier, l'Union européenne a adopté un accord entre les États membres pour interdire l'accès au marché commun aux produits agricoles issus de la déforestation, dont le cacao. Le groupe brassicole Heineken a annoncé qu'il allait investir environ 852 millions de dollars en Afrique du Sud au cours des 5 prochaines années. Selon l'agence Ecofin, ces investissements qui ont été annoncés lors de la 5e conférence sur l'investissement en Afrique du Sud comprennent entre autres la construction d'une nouvelle brasserie d'un coût de 165 millions de dollars. Netflix compte désormais un peu plus de 232 millions d'abonnés et a réalisé un chiffre d'affaires de 8,16 milliards de dollars au premier trimestre, conformément aux prévisions du marché d'après un communiqué de résultats publié mardi. Le vétéran du streaming, qui a entrepris de diversifier ses sources de revenus, a en outre annoncé qu'il arrêterait d'ici la fin de l'année son service historique de location des DVD par courrier lancé il y a 25 ans.
Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, l'Inter Milan du Camerounais André Onana a rejoint l'AC Milan au rendez-vous des demi-finales en validant son billet à San Siro avec un nul contre Benfica, 3 buts partout, suffisant après l'option prise à l'aller à Lisbonne, 2-0. Dernière équipe italienne à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles en 2010, l'Inter s'invite dans le dernier carré pour la première fois depuis cette odyssée victorieuse sous les ordres de José Mourinho et une année magnifique du Camerounais Samuel Eto'o. Grâce à son épais matelas de 3 buts d'avance après le match aller 3-0, Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après un match nul contre le Bayern Munich, 1-0, mercredi lors du dernier quart de finale retour. Pour un ticket pour le stade olympique Atatürk d'Istanbul où se déroulera la finale le 10 juin, Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez retrouvera sur sa route le Real Madrid, tenant du titre pour un duel entre deux des meilleurs avant-centres au monde, le Norvégien de Manchester Erling Haaland et le Français de Madrid Karim Benzema.
Les États-Unis et le Mexique candidats à l'organisation du Mondial 2027 féminin.
Les fédérations mexicaines et américaines ont révélé leur projet un mois avant la date limite du 19 mai fixée par la FIFA pour que les pays candidats à l'organisation de cet événement soumettent officiellement leur candidature. Le mondial féminin s'est déjà tenu aux États-Unis en 1999 et en 2003, mais le Mexique n'a jamais accueilli la compétition. Si cette candidature conjointe est retenue, le mondial féminin se déroulera un an après la Coupe du monde masculine de 2026, qui se passera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le président de la Fédération du Mexique, Yon de Luisa, a estimé que l'organisation de ce tournoi contribuera à développer le football féminin dans son pays. Les États-Unis et le Mexique seront en concurrence avec la candidature conjointe de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas, ainsi qu'à celle de l'Afrique du Sud et du Brésil. L'organisation de la Coupe du Monde 2027 devrait être décidée lors du congrès de la FIFA en mai 2024. La Coupe du Monde féminin 2023, elle, se déroulera à partir du 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de la première fois que ce tournoi est partagé entre deux pays.
Merci Yacouba.
Ba 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 ba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Hier mercredi, des milliers de résidents de Khartoum ont pris la fuite, empruntant des routes jonchées de cadavres et de véhicules militaires calcinés pour échapper aux violents affrontements qui opposent depuis 5 jours les forces paramilitaires et l'armée régulière. Pour faire le point sur cette situation humanitaire, Eric Manirakidza a encore joint à Khartoum le porte-parole du CICR, Germain Mouévou.
Nous sommes au 5e jour des combats actuels dans notre ville du Soudan. Malheureusement, la situation humanitaire n'a pas évolué positivement. Les populations sont toujours tirées chez elles et les combats se déroulent en pleine ville. On a remarqué depuis que certaines personnes tentent malgré tout, malgré les combats, tentent de sortir de chez elles et aller s'abriter dans des quartiers considérés comme moins dangereux ou moins exposés aux combats. On a aussi remarqué des populations qui quittent Khartoum, malgré toutes les difficultés qui vont avec, et d'autres villes du pays qui quittent les grandes villes où il y a des affrontements pour aller trouver refuge auprès des proches, des membres de famille en dehors de l'île. Ça, c'est la situation qu'on observe sur le plan de l'accès à l'eau et à l'électricité. Certains quartiers ont pu recouvrer de l'électricité et de l'eau, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres quartiers. Et ce qui affecte malheureusement aussi les hôpitaux. Je mentionnerai aussi le fait que beaucoup d'hôpitaux manquent toujours de médicaments et de matériel médical parce que les chaînes d'approvisionnement ne sont plus opérationnelles.
Et les humanitaires peuvent aller vers ces populations en détresse?
Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Jusque ce jour, ici à Khartoum notamment, le CICR et d'autres organisations humanitaires ne sont toujours pas en mesure de sortir pour aller apporter l'assistance d'urgence aux personnes qui sont dans le besoin. Il y a 2 jours, le lundi, à Al-Fashir, Zalengi, dans le Darfour, le CICR a pu quand même obtenir les garanties de sécurité de la part des belligérants pour sortir, aller apporter des médicaments et du matériel médical aux hôpitaux de ces 2 villes, ce qui va servir à prendre en charge les blessés de guerre.
Que risquent les habitants de Khartoum qui ne peuvent pas avoir accès à l'eau au-delà des problèmes d'approvisionnement en nourriture?
Alors, c'est le danger liés aux maladies qui vont avec. Il fait excessivement chaud à Khartoum, la température moyenne est autour de 40 degrés, donc les gens ont besoin de prendre de l'eau. Alors s'il n'y a pas de l'eau potable, les gens risquent de prendre, de consommer de l'eau non potable, ce qui peut conduire à des maladies, comme vous le comprenez. En plus de cela, le fait que les populations sont tirées chez elles, ne peuvent pas sortir, les marchés, les boutiques d'alimentation ne sont pas ouverts, l'absence de nourriture va aussi créer un grand problème pour les populations civiles.
Le porte-parole du CICR, Germain Mouéou, joint à Khartoum. Le conflit au Soudan a suscité des appels mondiaux en faveur d'un cessez-le-feu, mais des questions subsistent sur la manière dont les autres pays peuvent persuader les combattants de déposer les armes. Au Congrès, ici à Washington et à la Maison-Blanche, on assure utiliser le statut de Washington et son influence limitée pour tenter de faire la paix. Un reportage d'Anita Powell de la VOA, repris ici par Michel Joseph.
Depuis samedi, les combats font rage à Khartoum. 2 généraux s'affrontent pour dominer le pays et les civils sont pris entre 2 feux. Le chef de la diplomatie américaine a révélé avoir transmis un message au chef des forces armées soudanaises et des forces paramilitaires de soutien rapide. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
This morning, I made calls to generals Burhan and Hamedi.
J'ai appelé les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hamedi, le général Mohamed Hamdan Daglo, pour les exhorter à accepter un cessez-le-feu de 24 heures pour permettre aux Soudanais de retrouver leur famille en toute sécurité et de recevoir l'aide humanitaire dont ils ont désespérément besoin.
Le général Abdel Fattah al-Burhan et général Mohamed Hamdan Daglo, alias Hamedi, ont été alliés pour mener le coup d'État en 2021, puis se sont retournés l'un contre l'autre. Au début du mois, des manifestants sont descendus dans les rues après l'échec des négociations sur la transition vers un régime civil. La Maison-Blanche assure qu'elle travaille d'arrache-pied pour ramener la paix, mais refuse de dire quelles seraient les conséquences si les belligérants refusent de comprendre. Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche.
Nous avons été très clairs sur l'importance de la désescalade et vous avez entendu le secrétaire Blinken en parler. Vous avez entendu mon collègue en parler également. Je ne vais pas aller au-delà de ce qu'ils ont dit.
Les législateurs américains qui connaissent bien le continent affirment que les enjeux sont très élevés. Le sénateur Chris Coons du Delaware.
Je n'ai pas perdu l'espoir qu'il existe encore une voie vers la fin de la violence, mais nous devons nous préparer à la possibilité très réelle que le Soudan soit sur le point de sombrer dans une guerre civile totale. Je crains que cela ne devienne rapidement une guerre par procuration.
Les États-Unis, qui viennent à peine de rétablir leurs relations avec le Soudan, pour le moment ont peu de marge de manœuvre. Les liens entre Washington et Khartoum sont depuis longtemps tendus et les États-Unis ont suspendu leur aide au Soudan lors du coup d'État de 2021. Cameron Hudson, associé principal au Centre d'études stratégiques et internationales.
Je pense que le défi ici est que le levier qui reste à Washington n'est pas celui qu'il veut mettre sur la table. Et c'est l'utilisation de mesures punitives. Je pense qu'au cours des 6 derniers mois, Washington, et même depuis le coup d'État, a utilisé une stratégie d'engagement et une stratégie d'incitation pour tenter d'amener les généraux à renoncer au pouvoir. Le problème est que dans l'histoire du Soudan, ces généraux n'ont pas l'habitude de répondre aux incitations, tout comme ils gouvernent le pays par la peur, l'intimidation et leurs propres mesures punitives. C'est à cela qu'ils répondent eux-mêmes.
That's what they respond to themselves.
Le sénateur Coons estime qu'il s'agit d'un travail d'équipe.
We do have some leverage.
Nous avons une certaine influence, mais il y a d'autres acteurs dans la région qui ont également beaucoup d'enjeux et une certaine influence. Et nous devons travailler avec eux en étroite coordination.
Ce travail a commencé. La Ligue arabe, l'Égypte et les Nations Unies, l'Union africaine et l'IGAD ont fait savoir qu'elles œuvraient pour la paix, mais personne ne sait quand les combats dévastateurs vont se terminer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Mali, le groupe État islamique au Grand Sahara a pris lundi le contrôle de Tidermen au nord de Menaka dans l'est du Mali. Les combats ont provoqué des déplacements massifs de population vers Menaka, sécurisés par l'armée et la MINUSMA. Nathalie Barge a joint Adey Maïga, présidente de la plateforme des femmes du mouvement pour la signature de l'accord d'Alger, qui parle de la situation des femmes et enfants arrivés dans cette ville proche de la frontière avec le Niger.
La situation de Menaka, elle est très critique parce qu'il y a beaucoup de déplacés avec les islamistes qui avancent parce que toutes les bourses sont vides. Ils ont chassé tout le monde de la bourse, donc tout le monde est à Menaka ville. Donc la situation est très critique. Après Andrabouka, maintenant c'est Tidermen qui est en train de rejoindre Menaka. Il y a tellement de déplacés, je ne peux pas vous dire exactement les noms bien. Je sais qu'il y a beaucoup de déplacés parce que partout, sur les dunes, sur les arbres, partout il y a des tentes, les gens sont partout à Menaka.
Quelles sont les répercussions sur les femmes et sur les enfants de cette situation?
Vous savez, quand il y a conflit, c'est toujours la femme qui souffre. C'est elle qui perd son mari, il y a les orphelins, c'est elle qui devient de vivre. Elles ont tout perdu, elles n'ont plus rien. Nous, les femmes du Nord, on n'a pas fait grandes études, on n'a pas été à l'école, on s'est débrouillé. Une femme qui perd son mari, qui perd ton enfant, tu n'as plus de soutien, tu n'as pas de boulot, comment tu vas vivre? Une femme qui va se retrouver avec 5 à 6 orphelins, comment tu vas survenir aux besoins de tes enfants-là? Comment tu vas éduquer les enfants-là? Tu n'as rien, tu ne travailles pas. Il y a des femmes qui sont complètement ménagées, elles n'ont absolument rien, elles ne savent pas ni faire du commerce ni rien, elles ne connaissent que l'élevage, et les animaux aussi sont tous, ils ont amené tous les animaux. Elles ne connaissent rien, si ce n'est pas l'élevage, elles ont leur lait, elles utilisent leur lait. Donc maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'animaux pour avoir du il n'y a plus rien. Elles sont obligées de s'adapter à la vie sédentaire. Et la vie sédentaire et puis la vie normale, ce n'est pas la même chose. Actuellement, là où on est, il y a les moyens qui nous manquent beaucoup. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants sont là dans le mari. Donc maintenant, notre seul souci, comment essayer de prendre les enfants là en charge et puis de les mettre à l'école. Parce que quand on va laisser les enfants dans la rue comme ça, c'est une autre catastrophe. Déjà, ils ont perdu leurs parents. Ils sont en train de rester dans la rue, en train de marcher. Il faut qu'on nous aide pour essayer de les cadrer pour l'année prochaine, pour les scolariser, les mettre à l'école, pour éviter les délinquants de la rue.
Adey Maïga, vous êtes présidente des femmes des mouvements signataires de l'accord d'Alger. La paix n'est pas revenue. Donc, qu'auriez-vous à dire sur cet accord?
Maintenant, il y a un autre maître sur le terrain qui n'est pas le mouvement. Donc, on est obligé entre nous, des Maliens, de se donner la main et puis d'échanger pour essayer de voir comment on va gérer la situation. Actuellement, il n'y a aucun mouvement qui gère qui sur le terrain. Les islamistes qui sont en train de les faire la guerre. C'est les populations qui souffrent. Donc, on est obligé de revenir sur la table de négociation pour échanger avec l'État. Il y a certains de nos mouvements qui ont créé la panique au Mali. Aujourd'hui, ils sont là, ils ne peuvent plus régler. Ils sont plus maîtres du terrain, ils ont été chassés de leur village. Les bouches sont complètement cerclées. Mais maintenant, quand ils sont comme mettre les moyens pour ne pas donner l'occasion aux gens de s'accaparer des Ménakas.
Adey Maïga, présidente de la plateforme des femmes du mouvement pour la signature de l'accord d'Alger, jointe à Ménaka, dans l'est du Mali.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Gabon, à l'instar d'autres grands centres urbains du pays, le centre hospitalier universitaire de Libreville abrite une caravane médicale gratuite, une opération initiée par le gouvernement dans le but de soulager les patients vulnérables. Au menu, des consultations gratuites, en dehors des examens de radiologie et laboratoire qui sont entièrement facturés aux usagers non assurés. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Il n'est pas toujours évident de prendre rendez-vous chez un médecin spécialiste. Avec la caravane médicale gratuite, les usagers du centre hospitalier universitaire de Libreville sont tenus de prendre leur mal en patience. Jean-Claude veut rencontrer un neurologue depuis ce matin.
Parce qu'on m'a donné même les ordonnances à faire à la CNAM. Comme je n'avais pas les moyens pour aller faire voilà, c'est pas juste l'hôpital de
Libreville. Vous êtes sûr que vous serez reçu?
Je ne sais pas trop, puisque ceux qui sont reçus là, ils sont qui ont donné le nom depuis 11 ans. Oh, je suis là depuis midi.
Là, vous avez l'air fatigué.
Une longue file d'attente s'est formée devant les services de consultations externes. Parmi les usagers prioritaires, ceux immatriculés à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Henri est un candidat non assuré.
Pour que ça se passe, hein, il a fallu beaucoup de consultations. En fait, ce n'est pas toujours bien organisé. Il faut qu'il fasse plus beaucoup d'attention et puis un peu de technicité. Alors, les réponses de fois ne sont pas belles. Pas de bonne réponse, il faut forcer, puis on arrive à la maison épuisé. Sinon, parce qu'après ici, il faut aller payer les médicaments. Voilà. Oui, effectivement, parce que c'est fait pour ça, normalement. Oui. Ah,
voilà. Les usagers admis en consultation passent préalablement par le service d'enrôlement de Priscatina. Elle est l'une des représentantes de la Caisse d'assurance maladie au CHU de Libreville.
Les patients, quand ils arrivent, ils vont d'abord aux côtés du CHUL, l'hôpital général, voir les dames, récupérer un coupon. Et après, ils viennent, ils se font enregistrer ici. Et après, ils vont chez les collègues ici, se faire enregistrer sur les feuilles de soins CNAMGS. Après, ils vont voir le médecin. C'est une caravane médicale, on ne paye pas.
C'est la procédure avant d'aller chez le médecin spécialiste. Seni Bungeza fait partie des internes de l'hôpital qui accueille et oriente les patients.
On écoute son histoire, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a ressenti. Et par rapport à ce qu'il va nous dire, on va l'examiner, demander des points d'examen.
Pour vous, c'est quel service?
Moi, je suis en hépatogastro.
Pas très sollicité comme service, là.
Bon, c'est quand même, mais ça va.
Prévu simultanément dans les 9 provinces du Gabon, ces missions médicales de proximité sont financées par l'État avec le concours des entreprises selon le gouvernement qui refuse de s'avancer sur les chiffres avant la fin de l'opération. Libreville, Ismaël Bionzé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seboudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com.
et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.